Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Le jour du budget de la province, budget qui va être lu par le ministre des Finances dans quelques heures. Et la tradition veut que le ministre des Finances, peu importe le gouvernement, s'achète de nouveaux souliers la veille du budget. Là, ils font ce qu'on appelle un photo op, là, une prise de photo de la part des journalistes de la Tribune. Puis là, ils chaussent ces nouveaux souliers. Puis c'est souvent l'occasion de donner un avant-goût de ce qu'on aura dans le budget du lendemain. Tu sais, on se rappelle que le ministre Girard avait déjà chaussé des patins à glace pour dire que Québec va aller plus vite, va accélérer sa croissance. On se rappelle qu'un autre ministre des Finances, il est allé chez le cordonnier rafistoler ses vieilles chaussures plutôt que d'en acheter des neuves parce qu'il allait nous annoncer des compressions budgétaires. Et on avait un autre qui avait acheté des chaussures Aldo pour dire que c'est de l'achat local qui va être une priorité. Mais là, cette année, c'est fini la tradition, c'est fini ce rituel. Le ministre Girard, il a dit non, j'embarquerai pas là-dedans. Fait que je vais juste faire une donation à un organisme communautaire, mais j'irai pas m'acheter de nouveaux souliers. Et je dois le dire, là, je confesse un petit pincement au cœur. Moi, j'aime ça les traditions, surtout quand elles sont politiques. Et j'ai pensé qu'on pouvait revenir sur ces traditions qui marque finalement notre vie politique. On revient là-dessus avec Jocelyn Saint-Pierre, historien et retraité de l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre.
Bonjour, madame.
Comment vous avez réagi devant la décision du ministre des Finances d'arrêter cette tradition?
Écoutez, pour un historien, les traditions, ça fait partie de l'histoire, hein? C'est des acquis. Et ben au Québec, comme on a un parlement de tradition britannique, ben forcément nos traditions sont d'origine britannique. Disons que moi, ben, étant donné mon âge avancé, je préfère qu'on garde les traditions, mais bon, faut peut-être les adapter aussi au goût du jour.
Parlons-en des traditions. La vie politique est ponctuée de différentes traditions. Moi, j'ai pu vivre certaines, mais je suis sûre que ça n'a rien à voir avec la connaissance que vous avez de toutes les traditions un peu inusitées. Celle qui me fait toujours sourire, c'est lors de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et lorsque les chefs de parti viennent le prendre par le bras, puis lui qui fait semblant qu'il veut pas y aller, puis qu'on le pousse jusqu'au trône. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on connaît moins?
Oui, ben l'affaire des souliers, ça c'est un classique, hein. En fait, ça vient encore d'Angleterre. C'est autour du 17e siècle, c'est pas très jeune. La rumeur circulait que le chancelier de l'Échiquier, qui est le ministre des Finances, baisserait les taxes sur les vêtements. Alors, pour faire taire la rumeur, lui, il s'est procuré des souliers. Et il a payé la taxe avant qu'il soit détaxé. Alors, c'est un peu le fond de l'histoire. Le ministre, M. Girard, a donné, je pense, c'est à Limoilou ou pas trop de Limoilou?
Pour vous parler du don qu'il a fait, c'est au centre communautaire du docteur Julien.
Ah, OK. Bon, ben sinon, si ça avait été pour acheter des souliers sport aux jeunes, la tradition aurait été respectée.
Ah oui, c'est ça, exactement. Mais on voit qu'on essaie à chaque année d'innover pour les souliers, mais à la base, ouais, là, c'était juste des nouveaux souliers.
Dans le fond, ça, c'est pas très grave. Là, il y a d'autres traditions qui sont aussi intéressantes, là. Mais vous savez qu'en Angleterre, on l'a abandonné, hein. On parle d'une mallette rouge avec et le chancelier de l'Échiquier boit la boisson de son choix. À ce sujet-là, ben je j'ai des anecdotes intéressantes sur le verre de gin du ministre des Finances.
Allons-y.
Oui, alors ben c'est une tradition au Québec là qui date de très longtemps, c'est que le ministre des Finances, lorsqu'il fait son discours, boit du gin dans son verre qui a la couleur de l'eau. Alors, c'est arrivé à quelques reprises et M. Lesage a été un grand ministre des Finances, un des très grands ministres des Finances, et il aimait le gin. Alors, on peut supposer que quand il faisait son discours, il buvait du gin.
Est-ce qu'il articulait...
L'Union nationale faisait toujours des blagues, à savoir que à chaque fois que les pages allaient porter un verre d'eau à M. Lesage, ben là, on lui demandait si c'était bien de l'eau ou si c'était du gin. Alors, ça, M. Lesage s'emportait facilement.
Est-ce qu'il articulait moins bien à la fin?
C'est vraiment de mauvais coup que les collègues de M. Gérard Delévêque lui avaient fait. Alors, avant de commencer son discours, il, pensant qu'il prend un verre d'eau, il prend une bonne gorgée dans son verre et ses amis avaient mis du gin. Alors, il avait été très, très surpris. Voilà.
Sinon, est-ce qu'on pense que M. Lesage, il articulait moins bien à la fin de son discours qu'au début du discours? Peut-être que...
Je sais pas. Les mauvaises langues diraient que ça le rendait encore meilleur, mais M. Lesage, c'était un orateur exceptionnel. Là. Alors, ses discours, puis bon, on les a pas parce qu'il n'y a pas de télévision à l'époque, là, mais ses discours, de par le texte, c'était des discours exceptionnels. Voilà.
Et comment, pourquoi abandonner aujourd'hui cette tradition quand on sait qu'au Canada, par exemple, Chrystia Freeland, elle a porté des escarpins aux dernières élections, puis elle l'a mise un peu à sa sauce, là, pas comme les ministres des Finances masculins dont on a l'habitude. Pourquoi vous pensez qu'on a voulu rompre avec cette tradition?
Ben, en fait, on se met au goût du jour, hein. Vous avez entendu parler de la disposition des sièges à l'Assemblée, hein. On est dans la modernité. Parfois, l'histoire, pour plusieurs personnes, c'est comme un poids, hein. Mais pourtant, sans histoire, on risque de répéter les vieilles erreurs. Et, si tu penses, c'est dans l'air du temps. Là, moi, on a de traditions. Il y a plein de traditions qui disparaissent, hein, dans la vie commune, dans les réceptions. Mais je pense dans la tradition du mi-carême, par exemple, qui était une tradition très importante. Ben, ça n'existe plus. Alors, mais pour les puis aussi le fait que peut-être ça vient d'Angleterre aussi, hein. On est encore, c'est la royauté, ben c'est sûr que la tradition la plus forte et la plus importante, c'est la tradition de la royauté. Mais on pourrait, une tradition, ça se crée à un moment donné, hein. Ça, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis après ça, ben ça s'est remplacé par autre chose. Mais en tout cas, si on a encore le temps, j'ai un dernier événement qui est super important.
Oui.
C'est en 1987, le journaliste Ralph Nosworthy a eu accès au texte du discours du budget une semaine avant la date prévue.
Et hey, ça fait stresser des ministres puis des attachés politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors, les mauvaises langues disent que M. Nosworthy se baladait dans les proches des bureaux du ministre des Finances dans l'édifice Honoré Mercier. Alors, ce qui s'est passé, c'est encore M. Lévesque, le Gérard D. Lévesque, qui était au prix avec ce problème-là. Alors, je me souviens d'avoir vu M. Lévesque et M. Bourassa à la télé, là, qui étaient un peu consternés. Et finalement, ils ont décidé de devancer de toute urgence le discours la journée même qu'on l'a su. Alors, le discours de M. Lévesque il n'y avait pas eu de huis clos. Le discours de M. Lévesque a été prononcé dans la soirée.
Ça précipite les choses, disons. Les ministres n'aiment pas vraiment que l'embargo ne soit pas respecté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si la situation se répétait, un journaliste publierait les informations contenues dans le budget ou est-ce qu'il contribuerait à maintenir l'embargo?
Faut dire que M. Nosworthy, c'était un chercheur de scoop, hein. Il était réputé pour ses scoops et, peut-être que, puis là, maintenant aussi, avec le huis clos, là, avec les journalistes, c'est un peu pour prévenir tout ça, hein. Les membres de la Tribune de la Presse, en particulier, sont dans le huis clos. Donc, ils ont toute l'information Et puis, mais c'est important qu'on respecte le huis clos parce que dans des mesures, il y a des mesures financières, là, il y a des gens qui, si vous apprenez, par exemple, un emprunt ou un versement quelconque, il y a des gens qui pourraient jouer à la bourse avec ces informations-là. Et aussi, dans le domaine financier, ben, ça pourrait être délicat aussi. Alors, c'est un peu pour ça qu'on fait le huis clos.
Évidemment.
C'est pourquoi tout le monde soit au même diapason aussi.
Il faut que le huis clos, ça devient aussi une sorte de rituel où tout le monde converge vers le centre des congrès de Québec d'habitude, où on est enfermé, ouais, pas de cellulaire, ouais, non, pas de réseau.
Encore là, c'est des traditions. En fait, ce qui fait la tradition, c'est de répéter toujours les mêmes gestes, hein? C'est ça qui fait la tradition. Quelqu'un le fait, ah ben on trouvait que c'était bien, on va le refaire. Puis le Parlement, c'est un lieu, nos institutions politiques. Le discours des chefs, c'est une tradition. Ça n'a pas toujours existé, le discours des chefs. Le premier qui a eu lieu, c'est en 1961. Bon, ben maintenant, c'est devenu une tradition. Il y en a plein. La façon de s'habiller aussi oui. À l'Assemblée.
Monsieur Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes historien et retraité de l'Assemblée nationale et vous avez une bonne mémoire de toute cette tradition qui ponctue notre vie politique à Québec.
Merci, c'est gentil.